Bonjour à tous. Merci de votre présence à cette rencontre avec Thiago Rodrigues et Thomas Rosendes. Donc, elle vous est proposée par Le Carré des Colonnes, mais aussi l'Institut Camões que je représente et la librairie Mola, bien sûr. Alors, je commencerai avec une petite présentation de nos invités. Thiago Rodrigues, vous êtes auteur, metteur en scène, comédien et depuis 2015, le plus jeune directeur de l'histoire du Théâtre National Dona Maria II de Lisbonne. Thomas Rosendes, vous êtes aussi comédien, metteur en scène, traducteur de théâtre. Ce qui vous réunit tous les deux aujourd'hui à Bordeaux, c'est By Heart, la pièce de Thiago Rodrigues que Thomas, vous avez traduite en français et qui est parue au Solistère Intempestif. Donc, vous pouvez l'acquérir à la fin de la rencontre. Thomas, est-ce que vous pourriez nous parler de l'histoire de By Heart et ensuite de l'histoire de votre expérience de traduction et du travail avec Thiago Rodrigues autour de cette traduction?
Bonjour. Le spectacle By Heart et la pièce By Heart, pour moi, c'est un des plus beaux textes contemporains qui est fait sur la mémoire. C'est comment le résumer? Il y a une phrase qui me revient, par exemple, du spectacle, qui, vu que ça parle sur la mémoire, ce qui est « Nous sommes ce dont nous nous souvenons ». Et je pense que ça, c'est une phrase, un peu une espèce d'étoile qu'on peut mettre au-dessus de ce texte et de ce spectacle, parce que c'est à la fois une histoire très personnelle de Thiago, pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux qui vont le voir, c'est une histoire qui parle de lui, très intime. Et dans les retours que j'ai eus d'ailleurs hier, par exemple, des spectateurs, c'est même touchant et bluffant, parce qu'on se demande où est la frontière entre le jeu, le réel, voilà, le rapport à la grand-mère, etc. Mais c'est aussi tout un travail sur la mémoire et sur qu'est-ce qu'on a en nous. Si on nous ouvrait là tout de suite, voilà, qu'est-ce qu'on trouverait à l'intérieur? Alors, pour ceux qui aiment lire, il y a énormément de textes, mais pour ceux aussi qui sont pas... Je pense que ça touche ceux qui aiment la littérature comme d'autres, parce qu'on est tous emplis de quelque chose, même de phrases, par exemple celle que je viens de dire là, voilà, ou de poèmes ou de phrases qu'on a entendues. Voilà, c'est ça pour moi l'essence de ce spectacle, et c'est pour ça que j'ai adoré travailler dessus. C'était trouver notre mémoire, et du coup avoir une mémoire, construire une mémoire collective, et se sentir quelque part un peu moins seul dans cette mémoire collective, créer quelque chose de touchant et d'émotionnel là-dessus. Voilà. Mon travail, pour répondre à la question du travail sur la pièce, Thiago parle très bien français, mais je l'ai aiguillé, j'ai traduit le texte pour respecter le plus possible son histoire et la sensibilité de cette histoire, un peu sur la corde raide. Je lui ai donné des pistes, parce qu'il parle français couramment, mais il avait besoin de ces pistes pour toucher un public français au plus proche de cette histoire, comme le public portugais peut l'être. Voilà, en gros, le travail que j'ai fait sur By Heart.
Mm-hmm. Thiago, vous voulez rajouter quelque chose? On parlait aussi de la pièce.
Allez, bonjour à tous, bon après-midi. Voilà, et merci de m'inviter à la librairie Mola. C'est incroyable d'être là, parce que j'ai entendu beaucoup parler de cette librairie. Mais c'est alors d'être à Bordeaux et avoir l'opportunité de la visiter la première fois et parler dedans, c'est déjà beaucoup. Et au Institut de Camões, j'ai bien sûr Le Carré. Au théâtre qui a invité le spectacle qu'on a présenté déjà hier, aujourd'hui et demain aussi. Je vois qu'il y a des gens dans la salle qui ont vu le spectacle hier, quelques verres même dans la salle. Pour les amis scellés dans la nuit de la mort, là-bas, ouais, voilà. Et voilà, la pièce, c'est ça, c'est le point de départ. Quelques d'entre vous le connaissaient déjà parce que vous avez vu la pièce hier. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je l'explique très rapidement, mais je ne vais pas saturer les gens qui le savent déjà. C'est que ma grand-mère a toujours aimé lire. Elle était cuisinière toute sa vie dans un petit village du nord du Portugal, Entre as Montes, la région du nord-est. Et elle avait l'habitude de lire beaucoup pendant toute sa vie. Elle demandait des livres à son fils, mon père, et après à moi et à mon frère. Et on l'emporte des livres toujours. Et un jour, elle a eu des nouvelles qu'elle allait devenir aveugle. Et elle m'a demandé à moi de choisir un livre pour apprendre par cœur. Quelque chose qu'elle faisait déjà. Elle avait l'habitude d'apprendre par cœur des passages des livres et des choses comme ça. Et voilà, j'ai commencé une quête un peu terrible et en même temps utopique dans le dernier livre, ce qui m'a touché beaucoup personnellement. C'était très concret. Il faudrait chercher un livre rapidement pour qu'elle pourrait apprendre le livre par cœur et continuer à lire le moment qu'elle était aveugle, continuer à lire mentalement ce livre qu'elle voudrait apprendre par cœur. Mais d'un autre côté, parce que je suis comédien, parce que le théâtre que j'aime bien faire a toujours eu un lien très fort avec l'idée de lecture, un théâtre comme une lecture à voix haute, une partage de la littérature qu'on accède, mais aussi qui nous habite toujours, ça m'a poussé vers une pensée autour de ces questions-là qui étaient les miennes aussi. Et j'ai commencé à collectionner des anecdotes, des petites histoires, des chefs-d'œuvre autour de cette question d'apprendre par cœur. Qu'est-ce que c'est, cet apprendre par cœur comme exercice presque biologique d'imprimer en nous-mêmes quelque chose que quelqu'un a écrit ou que quelqu'un nous a offert. Et cette idée d'apprendre par cœur aussi comme une façon de devenir l'auteur de quelque chose qu'on n'est pas l'auteur, de devenir le vrai propriétaire des mots de quelqu'un d'autre. Et moi, j'avais cette expérience comme comédien. Je savais qu'en apprenant les mots de Jean Anouilh par cœur, je m'appropriais de ces mots. Je trouvais des sens là-dedans que personne ne pouvait trouver, mais pas avant l'apprentissage par cœur. Là, je trouvais des sens que tout le monde pouvait trouver aussi dans le débat, dans la lecture. Mais à un moment donné, quand ça nous appartient, quand c'est en nous, qu'on le peut accéder comme ça, même plus vite que l'Internet, c'est vrai, c'est plus vite que l'Internet. Prince, je ne peux pas dire que je vole vers toi, sans nom, je me suis souvent arrêté en route, ça c'est Cocteau, adaptation de Sophocle. C'est plus vite. Le portable est encore là. Ça m'a fait beaucoup penser à moi et à mon travail et à ma vie et en même temps à ma grand-mère. Il y a un lien inattendu que je trouvais entre ma grand-mère et des gens comme Pasternak ou le professeur de littérature Georges Steiner. Et je pense que c'est une des grandes raisons pour laquelle j'ai décidé d'exposer publiquement une histoire qui est très personnelle, qui ne m'appartient même pas à moi seulement, elle appartient aussi à ma grand-mère. Mais j'ai pensé qu'en la partageant avec des gens, je pourrais aussi souligner ce lien qu'une cuisinière d'un petit village du nord du Portugal peut avoir avec un grand professeur de littérature à Oxford, un grand écrivain à Moscou. Ce n'est pas vraiment un exercice de... sentimentalement essayer de toucher les gens parce qu'on a tous une grand-mère qu'on se rappelle, on a tous des souvenirs des grand-mères. Mais c'est surtout cette idée qu'on est tous liés par ce phénomène de transmission. On est tous habités par la littérature, même ceux qui ne lisent pas. Même ceux qui ne lisent pas sont habités par la littérature parce qu'elle elle est en nous, elle se transmet, même involontairement. Et cette idée de souligner ce lien qu'il y a entre tout le monde à travers les mots, ce lien invisible qui est la transmission de connaissances et de création, ça m'a poussé vers l'idée de transformer cette quête, cette recherche personnelle dans une pièce et de partager cette pièce et en partageant des choses qui me touchaient, comme toujours, qui sont urgentes pour moi. C'est plutôt ça.
Merci. Dans By Heart, vous citez de longs extraits de romans qui viennent s'imbriquer au moment dédié à la mémorisation du sonnet et au récit de l'histoire de votre grand-mère. Vous donnez ainsi au spectateur de la matière brute qu'il est libre d'interpréter comme il le souhaite. On a l'impression que vous ne souhaitez pas faire le chemin à la place du spectateur. Est-ce une constante dans votre travail de laisser la place au spectateur?
Oui, j'ai commencé à reconnaître des choses qui se répètent dans mon travail. Je n'ai pas une doctrine comme ça, que je dis je travaille de cette façon pour arriver à ce but-là, avec ces principes-là. Il y a des principes de travail que je questionne à chaque fois, qui existent. Et de plus en plus, je reconnais qu'il y a des choses qui se répètent comme des traits de personnalité du travail qui se répètent. Entre ces choses, c'est que, je trouve que le théâtre est surtout cette assemblée autour de l'inconnu et qui est quelque chose de réel que vraiment se passe et de vivante. Où la marge d'erreur, le risque est l'outil le plus fort. Si je veux vraiment convaincre les gens que je suis quelqu'un d'autre, un héros, qui est en train de monter des escaliers énormes, qui est fatigué, qui arrive au bout et qui va crier, se libérer, tout ça, je ne sais pas. Quelle image, c'est étrange cette image. mais si j'essaie de faire ça, je peux me filmer dans des escaliers, me transformer avec du make-up et tout ça. Mais voilà, dans le théâtre, les gens ont acheté un ticket, ils savent qu'ils sont en semaine arrangeale, par exemple. Ils savent qu'ils ont pris le bus 3 et qu'ils sont là pour voir un spectacle. Et qu'il y a, c'est pas le soleil, c'est des lumières de théâtre. Alors, je pense que la chose la plus belle, en fait, c'est de dire, vous voyez les lampes, c'est le soleil. Et voilà, on partage cette idée. Alors d'essayer de convaincre les gens que c'est vraiment le soleil, de tempérer les lumières jusqu'au moment que ça rassemble vraiment la lumière naturelle et tout ça. Moi, je pense que le cinéma le fait incroyablement bien. Et même si c'est légitime de le faire en théâtre, je pense que ça ne peut pas être le but du théâtre, de convaincre. Je pense que c'est plutôt d'être ensemble et de partager. Et ça veut dire aussi partager l'imagination, laisser espace à l'imagination, évoquer plutôt que convaincre. Dire qu'il y a quelque chose là qui n'est pas là, proposer ça et laisser que cette chose gagne une forme différente dans les regards de chaque d'entre les gens qui sont dans le public. Et voilà. En français, je m'écoute maintenant et en français, ça sonne beaucoup plus simpliste que je voudrais vous proposer. Mais parfois, c'est mieux comme ça.
Merci. Thomas, vous avez donc traduit By Heart. Dans quelle intention avez-vous traduit cette pièce pour qu'elle puisse être jouée par d'autres compagnies? Et après, j'ai une autre petite question.
J'ai pas traduit cette pièce pour qu'elle soit jouée pour d'autres compagnies. C'était beaucoup plus pour le travail de Thiago. En fait, cette pièce, je l'ai traduite pour que... On a travaillé ensemble dessus pour qu'il y ait une mémoire de ce spectacle qui soit écrit. Il y a eu un désir de rendre ce spectacle-là disponible en livre. Et je pense que d'ailleurs, même après avoir vu ce spectacle, on peut très bien lire le livre parce que c'est une expérience qui est forcément un peu différente parce que Thiago déjà improvise, que c'est quelque chose qui est, pour ceux qui l'ont vu, très en lien avec les spectateurs, en fait. dans un constant retour. Et puis, de toute manière, il y a aussi des spectateurs qui sont sur scène. Donc, le prendre comme une œuvre littéraire, c'est aussi un défi qu'on s'est donné. Et je pense que c'est intéressant à voir comme tel. En tout cas, j'ai pas traduit cette pièce pour dans la visée qu'elle soit travaillée par d'autres compagnies. Ça, je pense que c'était pas. J'ai jamais pensé, en tout cas. Et voilà.
Et ce livre est dans la collection Jeunesse. Est-ce que vous savez pourquoi?
Oui, c'est François Beurer des Solitaires Intempestifs qui a voulu le mettre dans la collection Jeunesse parce que sa vision, c'était que derrière, d'ailleurs, il y a marqué lecture conseillée de 14 à 94 ans. Et son désir, c'était de faire quelque chose sur la lecture, non ? C'était vraiment, il y a marqué Bayer, apprendre par cœur. C'était dans un désir de sensibiliser les jeunes à la lecture et à toutes ces questions qu'on se pose sur la mémoire, sur la littérature qui est en nous. Donc, il a voulu mettre ça dans cette collection jeunesse qui existait avant, et pas dans la collection bleue, par exemple, où Bovary, une des autres pièces que j'ai traduites, est elle. Voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez, Thiago, du fait que cette pièce soit dans une collection jeunesse ? Est-ce
que je ça pense que c'est très bien que c'est publié déjà. Parce qu'au Portugal, par exemple, ce n'est pas publié. voilà. Comme Bovary aussi, c'est publié en France et pas au Portugal. Voilà. Il y a plein de choses qui se passent à la France qui ne se passent pas au Portugal. non, en fait, c'était une proposition, comme vient de dire Thomas, de François Beurer, qui croyait qu'il y a, comme je pense beaucoup de monde dans des théâtres où j'ai voyagé avec la pièce, des spectateurs qui me proposent ou qui me demandent à quel point ce n'est pas une pièce très, très ouverte à des jeunes. Je pense c'est une pièce que je pense qui propose quelque chose autour de la lecture, et ça c'est quelque chose qu'aux adultes, les adultes sont préoccupés vers la jeunesse, pas nécessairement la jeunesse, mais les adultes regardent comme une question qui devrait être plus proche des jeunes, et bien sûr ça nous donne des pistes, des défis vers la lecture qui ne sont pas les habituels, qui sont très personnels, qui sont émouvants, qui sont rigolos, qui sont... voilà. D'un autre côté, pas seulement la lecture, mais la lecture radicale qui signifie l'apprentissage par cœur. L'apprentissage par cœur, c'est un exercice de lecture militant. C'est aller plus loin dans la lecture. Et ça, c'est quelque chose que je pense que pour les jeunes, quand ils choisissent d'apprendre par cœur, c'est vraiment athlétique, quoi. C'est un défi intéressant quand c'est leur choix. D'un autre côté, je pense parce que c'est une pièce qui parle des questions plutôt denses, d'une façon très léger. C'est un peu comme moi, je cherche... c'est quelque chose que je ne peux pas éviter, ce n'est pas stratégique dans mes textes ou dans mes pièces, mais il y a toujours une légèreté, pas dans le sujet, mais dans la présence, qui a à voir encore, pas avec mon écriture, mais avec mon idée de théâtre. Mon écriture n'a pas vraiment identité, je pense. La façon dont j'ai écrit, c'est une conséquence du théâtre que moi, je veux faire. Parce que j'écris toujours en répétition. J'écris jamais tout seul. J'écris en combat avec des gens dans la salle de répète, avec des comédiens ou avec des gens. Dans ce cas, c'était en solo, mais c'était vraiment en combat avec moi-même aussi. J'écrivais des choses, je le disais à voix haute, je le redisais à voix haute jusqu'au moment où j'étais « Ah ouais, ça m'intéresse », et après j'ai réécrivais le texte. Alors c'est toujours en combat avec l'oralité, en combat avec la présence en scène, avec une imagination dans le public en face de moi ou en face des comédiens avec lesquels je travaille. Et voilà. Et ce qui reste est un peu plutôt l'identité des spectacles que j'aime bien faire ou que j'essaye de faire, qu'une identité d'une écriture même. Voilà. Et il y a toujours une légèreté dans cette assemblée qui est la légèreté du risque de ne pas savoir le prochain pas du spectacle, d'être dépendant, vraiment dépendant du public, de parler vraiment aux gens, de ne pas avoir un quatrième mur qui n'étaient jamais là, mais de confronter les gens en assemblée avec une proposition, de leur laisser rire ou pleurer ou rester en silence et de prendre ça comme une réponse réelle à ce moment présent ici dans le théâtre. Et voilà, et écrire pour cette proposition de théâtre signifie écrire d'une façon qui peut laisser l'espace à cette intervention de l'autre, du public. Et By Heart, donnant pas encore plus loin, parce que j'invite spectateurs, 10 spectateurs à monter sur scène, j'invite 10 personnes à monter sur scène, il y a 10 spectateurs qui viennent, c'est pas moi qui fais le choix, heureusement. Pour les gens et pour moi. Et voilà, mais normalement, il y a toujours, même si mon théâtre n'est pas nécessairement un théâtre de participation, il y a toujours une acceptance que le théâtre est déjà par nature participatif. Il ne peut pas exister sans l'assemblée des gens. Et voilà, j'écris pour un moment où on se rencontre avec des inconnus. C'est plutôt ça. Et là, il faut être comme... quand même demander de la complicité aux gens. Et pour demander de la complicité, comme tout le monde le sait, il faut savoir faire rire. Mm-hmm. Ouais.
Le rire, c'est très important dans cette pièce.
Ouais. Pas à cause de la dictature de la comédie, mm-hmm. qui doit être efficace et faire rire, sinon cela ne marche pas, c'est pas le cas, mais à cause de la complicité. À cause de la partage, du rencontre. En fait, avec By Heart, je me rencontre avec, je ne sais pas, hier, 90 personnes pour la première fois. C'est la première impression qu'on a de les uns des autres. Et moi, je trouve qu'on doit, si on parle des choses qui nous touchent, si on partage, il y a du plaisir dedans. Et je ne veux pas dire que le plaisir, c'est un synonyme de rire, ce n'est pas ça. Mais même avec les sujets les plus denses ou touchants ou durs, ou violents même, les partager signifie qu'il y a un morceau de plaisir qu'on ne peut pas effacer. Et en plus, j'aime ouais, il y a des choses qui sont rigolos dans la pièce qui donnent volonté de rire. Et voilà, j'aime bien faire un peu rire les gens. C'est aussi un piège, parce que si tu ris, tu acceptes. Si tu ris, t'es dans quelque chose. Si tu ris avec quelqu'un, t'es plus proche de cette personne qu'avant. Ouais, on veut se rencontrer quand même.
Je pense justement que la légèreté, la notion de rencontre, l'invitation de la pièce, de la mise en scène, est assez présente aussi dans la version du livre. On a travaillé avec Thiago pour garder certaines didascalies, pour que tout ça soit visible, en fait. Et je comprends d'autant plus le choix de François Beurer de le mettre en jeunesse, parce que cette notion d'invitation, là, cette grande proximité, en fait, avec l'auteur... C'est agréable. Moi, je sais qu'en découvrant la littérature, j'aimais bien avoir la sensation que l'auteur était face à moi, un peu, qu'il y avait une vraie connexion. Et du coup, par exemple, moi, c'est avec ce bouquin que j'ai découvert Pasternak, que je ne connaissais pas. Et j'ai lu le docteur Jivago. C'est avec ce bouquin que j'ai découvert Ray Bradbury. Et en fait, il m'a donné envie de lire d'une manière qui n'est pas habituelle aujourd'hui. C'est-à-dire qui n'est pas intellectuel, mais qui est plutôt... voilà, je te montre ma bibliothèque, je te montre ce que j'ai un peu dans les tripes, et du coup, on a envie de partager ça, je trouve.
C'est une vraie invitation à lire, ouais. À lire les auteurs dont vous parlez dans la pièce. Donc, By Heart, c'est une pièce dans laquelle le public a un rôle important. Enfin, peut-être pas d'ailleurs. Êtes-vous ironique, Thiago, lorsque vous dites que vous êtes allergique au théâtre interactif ou...
Pas du tout, très sincère. je le dis comme une blague, mais aussi en faisant référence à un théâtre interactif qui nous manipule en tant que spectateur. Un théâtre qui nous fait tomber dans un lieu de, pas nécessairement juste de vulnérabilité, mais de vulnérabilité qui n'est pas partagée. Je pense que la différence quand je propose aux gens de monter sur scène en disant « mais attention, je suis allergique au théâtre interactif », c'est plutôt que je ne vais pas vous utiliser d'une façon où moi, je ne prends pas les risques et vous êtes mes outils dans le spectacle. Mm-hmm. C'est plutôt, je vous invite à monter sur scène pour apprendre un texte par cœur, et voilà, on fait un pari tous ensemble, on ne sait pas comment ça va se passer. Et je pense que finalement, et c'est un peu ce que je peux repérer après le spectacle avec des soldats qui sont montés sur scène, c'est que voilà, je suis plus vulnérable, ou je me sens plus vulnérable, et je risque plus que les gens qui sont là, qui sont quand même dans un lieu d'exposition, mais quand même confortable. J'essaie de les faire sentir voilà, chez eux ou chez moi, et voilà, et de juste partager ce moment. Et à un moment donné, c'est plus important, je pense, pour les 10 personnes qui sont sur scène, mais il y a des gens là qui étaient sur scène, ils peuvent parler peut-être, mais je pense que c'est plus important pour ces gens là que ils sont en train de devenir un collectif éphémère mais réel. Ils sont en train de vivre quelque chose ensemble en tant que collectif qu'ils ne pourraient pas vivre autrement, et un collectif qui n'existait pas autrement et qui est là pendant la durée d'une heure et demie ou de 5 heures, ça dépend, voilà, mais qui est réel. Et ça leur donne une confiance d'être là. Et c'est vrai que je ne manipule pas trop. Un peu, doucement, mais pas trop. Et je suis très confronté parfois avec des gens qui me parlent, qui arrêtent le spectacle pour parler, pour dire des choses, pour demander, pour... et voilà, et je prends le temps et on dialogue. Et c'est ça, le spectacle. Il y a plein de boîtes dans le spectacle que je ne sais jamais s'ils seront ouvertes. Et je pense qu'il y a plein de boîtes qui, jusqu'à présent, n'étaient jamais ouvertes. Et je suis surpris chaque fois. En fait, chaque fois que je joue ce spectacle, c'est une redécouverte du texte. Et en même temps, c'est complètement nouveau pour moi. Je n'ai jamais la sensation... allez, le théâtre que j'essaie de faire est un théâtre qui va vers un chemin où on essaie le plus possible de ne jamais avoir la sensation de répéter le spectacle d'hier ou... voilà, d'être dans le présent, de faire des choix sur scène, d'être des comédiens qui continuent à penser, qui ne sont pas les machines obéissantes, qui répètent comme une machine ce qu'ils sont ordonnés de faire, ce qu'ils ont eux-mêmes décidé de faire. Donc on va sur scène avec des idées, une préparation, comme une valise pour un voyage, mais le voyage commence seulement quand le public est là. Et il y a plein d'inattendus, et plein de décisions et de liberté et de responsabilité à prendre sur scène. Mais avec ce spectacle, il y a encore les 10 spectateurs là, alors j'ai jamais la sensation de répétition avec ce spectacle. Chaque fois que je le joue, c'est très très différent. Parce que aussi, il y a des gens ici qui n'étaient pas sur scène, mais qui étaient dans le public. La présence, ces 10 personnes, c'est tout un spectacle déjà. 10 personnes pendant une heure et demie sur scène, ces 10 personnalités avec ses vêtements, ses chevaux, ses corps, ses voix, ses regards, ça change tout chaque fois. Et moi, je le vois aussi. Je regarde ces personnes pour la première fois. Alors, c'est parfois très difficile à me concentrer parce qu'il y a des gens qui sont très fortes, que je veux regarder en silence comme ça, juste.
Cette pièce parle de la mémoire qui est indispensable au travail du comédien. Et elle donne à 10 personnes du public de faire l'expérience de la vulnérabilité du comédien. Est-ce qu'il y a dans By Heart un hommage à ce métier-là ou même à la mémoire, à cet outil merveilleux?
J'ai du mal à répondre. Un hommage, ça semble tellement solennel. Mm-hmm. Il y a, bien sûr, c'est plutôt qu'un hommage. Qui suis-je pour faire un hommage à n'importe quoi? C'est plutôt une expression d'amour vers la littérature, la lecture, la mémoire, ma grand-mère. Mais c'est pas pour dire, attention les gens, moi, je fais un hommage à ça, parce que vous, vous ne le faites pas. Non, c'est plutôt, je partage quelque chose que j'aime bien, voilà. Et c'est plutôt ça que hommage. Hommage, ça me semble un peu sceller quelque chose en disant c'est un hommage à... c'est pas ça. L'hommage est dans les yeux des gens. S'ils veulent ressentir ça comme un hommage, bien sûr, mais c'est juste un nom. C'est plutôt que quand on fait un spectacle, c'est inévitable. Ça serait une tragédie de faire des spectacles ou des travaux artistiques qui ne sont pas remplis des choses qu'on aime. Ou d'une façon qu'on aime de regarder des choses qu'on n'aime pas, par exemple. Voilà. Mais il y a toujours de l'amour partagé quand on fait quelque chose d'artistique, et notamment du théâtre, parce que le partagé est déjà là, évidemment. Alors, c'est juste d'ajouter de l'amour. Et c'est ça. Non, je ne dirais pas un hommage dans ce sens. C'était une volonté de faire un hommage à quelque chose. Ça, ce n'était pas le but.
Il vous est arrivé de jouer cette pièce dans énormément de pays, au Portugal, en France, en Espagne, en Allemagne, au Canada. Peut-être vous pourriez rajouter d'autres pays.
Aux États-Unis, en Suisse. Mm-hmm. En Norvège.
Est-ce que toutes vos créations...
Même au Portugal.
Oui. Je l'avais dit au début. Ouais. Est-ce que toutes vos créations sont aussi universelles que By Heart? Est-ce que l'universalité du message, c'est quelque chose de primordial pour vous?
Je pense que le local est le plus universel. Je pense qu'on a quelque chose à dire... qui est suffisamment urgent et suffisamment spécifique, ça peut devenir local. Moi, j'ai des problèmes avec... j'étais face à cette idée. Maintenant, je devrais faire un spectacle qui marchait bien partout. Tu vois, je vais faire un spectacle avec un sujet, une forme que je peux présenter. Je vais faire un spectacle qui marche bien en France. Tu vois, quelque chose comme ça. Et je me rends compte... Après l'ivresse de l'ambition, je suis le matin après, et je me rends compte que en fait les choses les plus universelles, les chefs d'œuvre qui nous touchent sont tellement locales, tellement spécifiques, tellement. C'était Garcia Marquez qui disait les choses les plus universelles sont les histoires que je raconte de ma petite village en Colombie. Mm-hmm. Voilà, et c'est je pense que... Non, j'ai juste urgence de raconter quelques histoires, de parler de quelque chose. Et parfois, ça ressonne dans les gens, et parfois, ça ne ressonne pas. Il y a des pièces que j'ai faites que, voilà, ça ne fait pas... C'est pas juste la question, je ne l'ai pas tournée partout dans le monde, c'est des pièces que j'ai faites que... Voilà, ça ne touche pas tellement les gens, ce n'est pas tellement ouvert aux expériences des autres. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pires. C'est juste que, peut-être elles étaient pires. non, mais c'est, je pense que, non, il n'y a aucune volonté d'avoir un message universel. Je pense que... Il y a des gens qui... Ça se passe très, très simplement. On crée un spectacle. Et parfois, il y a quelqu'un qui travaille dans un théâtre, quelque part, qui voit ce spectacle et qui dit, je pense que dans ma communauté, ça ferait du sens. Et on fait confiance à cette personne. Et la plupart des fois, c'est correct. Et parfois, c'est pas correct. Mais c'est le pari aussi. J'étais jamais ici à Saint-Ménard-en-Jalles. Jamais. À Bordeaux, ça fait 10 ans, mais pas en travail. Jamais. Je ne savais pas si By Heart était quelque chose qui pourrait toucher les gens ou qui disait des choses aux gens. Mais on fait confiance à quelqu'un qui nous dit, je travaille là-bas, je connais les gens. Les gens vont... Ils doivent voir ça. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est très simple. Et voilà, parfois, il y a plus d'invitations. Parfois, il y a moins. Mais je pense qu'on doit, bien sûr, c'est évident de le dire, en pratique c'est plus dur de le faire, mais on doit on doit vraiment essayer de ne pas tomber sur une autocensure qui nous fait créer des spectacles autour des sujets et avec c'est pas des formes, mais des imitations des formes qui rassemblent à quelque chose qui voyage beaucoup, qui marche très bien, qui est une tendance dominante de la création. Voilà. On doit pas tomber sur cette piège. Elle est toujours là. Et le plus on travaille, le plus on présente dans le monde, le plus elle est là à notre disposition, de faire quelque chose qu'on sait qui peut marcher. Maintenant, je vais faire quelque chose avec la communauté, tu vois. Il y a des gens qui font un travail avec la communauté, sincère, artistiquement rigoureux, radical, intransigeant, et que je respecte complètement. Et après, il y a des gens qui font un travail avec la communauté parce que ça marche. Ça marche. Et tu peux y aller, et tu peux aller là, et tu peux faire, parce que maintenant, il y a plein de théâtres qui veulent travailler avec la communauté. Je donne c'est un exemple. Je travaille dans un théâtre à Lisbonne où je travaille avec plein d'artistes qui travaillent avec la communauté, et je sais pourquoi. Je sais, c'est pas à cause de la communauté. Mais après, il faut travailler avec des artistes qui sont intransigeants artistiquement, qui ont de la qualité, et quand même, c'est un travail où le souverain, ça se dit ? Ce qui préside au travail, c'est l'artistique. Mais il y a bien sûr des conséquences qu'on cherche aussi de l'artistique quand on est à la tête dans le théâtre et on pense à la programmation. Mais en tant qu'artiste, on doit juste continuer à faire ce qu'on a besoin de faire et ne pas quitter, parce que les artistes, je pense, peuvent être presque parfois des derniers à garder quelque chose qui est très important, qui est une bourse de résistance dans l'activité humaine, continuer à chercher à être heureux. Il y a plein d'activités humaines qu'à présent dans le monde n'ont pas ce droit, n'ont plus ce droit. Dans mon travail, je cherche encore à être heureux. Mais dans la création artistique, on doit le préserver. C'est notre mission aussi. Et voilà. Et pour être heureux, il ne faut pas se vendre artistiquement. Il faut penser qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, même si ça ne marche pas. Et c'est dur, c'est très dur. Et le plus facile est le travail, et le plus tu voyages, et le plus de gens te regardent avec respect, et le plus légitime tu te sens artistiquement, le plus dur est de ne pas tomber sur cette piège. Mais voilà, on a tous des pièges dans notre vie qu'on doit combattre, quoi.
Thomas, vous avez participé à la création du festival Tous au théâtre dans le Loiret. Quant à vous, Thiago, avec votre projet Eunice, vous allez emmener les créations du Théâtre National dans les théâtres de province au Portugal. On sent que vous partagez tous deux une volonté d'élargir votre public. Est-ce une nécessité ou un choix ?
Oui, moi, c'est... Est-ce une nécessité ou un choix ? En tout cas, moi, dans ma compagnie de théâtre, on est 8. On s'est regroupés, on a tous fait une école à Paris. Et on avait envie d'aller voir un autre public, pas parce que, oui, par volonté en fait d'avoir d'autres rapports aux spectateurs en fait, d'aller voir vraiment les gens, et du coup de monter un festival dans un lieu qui est une toute petite commune qui s'appelle Triguère, à côté de Montargis dans le Loiret. Et il se trouve qu'un ami a une ferme là-bas, et du coup on a transformé cette ferme, cette maison avec une grande ferme, avec une grange, on a transformé la grange en lieu de répétition. On vit dedans, on va répéter la journée, on mange, et puis après on crée 3 spectacles en un mois et demi, et puis on joue ça devant les gens. On a un tarif à 5 € pour que les gens viennent. On essaie à notre manière de faire du théâtre comme il nous plaît en fait, de s'inscrire dans quelque chose qui nous plaît, et de pas faire du théâtre pour de pas s'inscrire dans un modèle qui nous serait prédéfini, de jouer, de chercher des salles payantes, de s'inscrire dans un espèce de cycle qui nous donne pas d'envie en fait, pas de désir. Voilà, c'est ça, c'est ce que disait, c'est être heureux dans notre métier. Nous, je pense que avec le festival Tous au théâtre, être heureux, c'est aller à la rencontre d'un public qui ne va pas ou peu au théâtre, leur proposer des prix très accessibles et faire des rencontres. Et il y a des choses incroyables qui se passent. À Paris, il n'y a jamais quelqu'un qui se lève pour interpeller un acteur en l'appelant par le nom de son personnage. Enfin, c'est plein de rencontres qui me font aimer ce que je fais. Et en plus, étant une compagnie émergente, le jeune, etc., je pense qu'on a besoin de ces rencontres pour ne pas devenir aigri. Parce que le théâtre est aussi une sorte d'industrie, même si, à Paris en tout cas, j'ai l'impression. Et que je pense que ce mouvement-là, pour retrouver du contact, quelque chose de populaire qui soit vivant, c'est un besoin et une entrée très forte pour les jeunes aujourd'hui qui font ce métier.
Est-ce que tu peux rappeler le nom de la compagnie ?
Le festival s'appelle Tous au théâtre et la plateforme s'appelle Satori, plateforme de création.
En tant qu'artiste, j'étais très formé par mon expérience avec une compagnie belge, TG Stan, avec laquelle j'ai voyagé beaucoup. J'ai quitté le conservatoire de théâtre fin de première année pour commencer à travailler avec eux. C'est un peu comme le jeune de la ville qui s'enfuit avec le cirque. Et je suis parti en Belgique avec eux et j'ai travaillé plusieurs années avec eux dans plusieurs créations. Je continue encore parfois à collaborer avec eux. Et c'était une éducation très... voilà, je pourrais très jeune voyager en Europe, voir d'autres spectacles, connaître d'autres artistes, travailler dans une façon collective où j'étais très responsable aussi créativement et jouer dans d'autres langues. Alors pour moi, disons que la géographie s'est élargie brutalement très tôt. Et quand j'ai créé ma propre compagnie au Portugal en 2003, je voudrais que la géographie continue large. Je n'ai pas cherché, par exemple, à avoir mon propre espace de travail, de présentation, comme la plupart des compagnies portugaises le faisaient. Maintenant, ça a changé beaucoup parce qu'on a de plus en plus des théâtres publics. Alors, les compagnies peuvent présenter leur travail dans des théâtres publics, mais jusqu'au début des années 90, ça, c'était presque impossible. Chaque compagnie avait son propre petit théâtre. Il y avait le Théâtre National, où je suis maintenant, et pas beaucoup plus en fonctionnement régulier, à Lisbonne, par exemple, et dans le pays, encore moins. Et voilà, il y avait le National à Porto, plutôt. Alors, je me suis éduqué comme artiste et comme producteur, comme metteur en scène, comme un nomade qui visite, même à Lisbonne, je me sentais un nomade qui visitait Lisbonne, mais qui visite les villes et les gens de cette ville. Alors, l'idée de public, pour moi, c'est des minorités partout dans le monde, plutôt qu'une majorité dans une communauté. Et cette idée m'a transformé aussi comme artiste, la pensée comme artiste. Et évidemment, quand je suis nommé à la tête du Théâtre National en 2015, il y a un esprit de guérilla, de voyager léger et faire beaucoup et faire avec ce qu'on a dans les mains, que j'emporte avec moi au National, le plus grand bâtiment du théâtre portugais, un peu mix de comédie française et Odéon. Alors c'est vraiment 86 personnes. Je viens d'une compagnie où on était trois avec moi pour un bâtiment où il y a 86 et moi. J'ai essayé d'emporter cet esprit indépendant au lieu de dire maintenant je me transforme et j'assume l'esprit institutionnel du Théâtre National. Aussi parce que je pense que le fait que j'étais nommé, pas nécessairement juste moi, mais quelqu'un de mon âge, de ma génération, correspondait à un besoin de renouvellement, pas seulement du Théâtre National, mais de la scène portugaise institutionnelle, de laisser rentrer les indépendants, les artistes et les compagnies dans les grands bâtiments. Et ça se passe aussi dans d'autres théâtres portugais à présent. Alors il y a vraiment une entrée de ces artistes. Et ce n'est pas seulement une décision politique. En fait, c'est inévitable. Parce que les dernières années, 10, 12 années, les politiques culturelles étaient faites par des artistes parce qu'il n'y avait pas des politiciens qui le faisaient. Alors, à un moment, à présent, avec le gouvernement qu'on a maintenant, il y a la volonté d'avoir politique culturelle, mais qui le sait faire ? personne que les artistes. Alors, les artistes ont rentré dans les institutions avec son expérience de travailler dans le terrain, avec les gens, avec le public, avec les jeunes, avec d'autres institutions, les écoles, etc., etc. Et voilà, et avec le national, une des choses qu'on voudrait immédiatement faire, c'est assumer la dimension nationale du bâtiment, qui est un théâtre national en nom, mais qui fonctionnait un peu comme un théâtre presque de quartier, juste presque avec les artistes de Lisbonne, beaucoup pour le public de Lisbonne. Et il y a eu une volonté, même avec des choses très bien qui se sont faites au national avant moi, mais il y avait un esprit un peu de le national est le bâtiment et pas une idée. Et c'est bien, c'est un bâtiment incroyable, c'est un monument national au centre de Lisbonne. Les touristes qui visitent, les Français qui sont là tout le temps, plein de Français à Lisbonne maintenant. C'est la langue qu'on écoute dans les rues. Mais les Français, ils regardent, ils disent, mais la mairie, comme c'est belle. C'est le théâtre national, au centre du centre du centre de la ville. C'est le grand bâtiment du centre. Et c'est lourd, c'est un monument national, très belle, avec deux salles. Mais le théâtre national d'Anna Maria Segunda doit être une idée plus large que le bâtiment. Alors on a commencé pas seulement à inviter plus de compagnies de tout le pays pour présenter dans le bâtiment, mais aussi on a commencé à sortir beaucoup plus, à voyager dans le pays avec les travaux qu'on produit, parce que c'est un théâtre de création. On présente 45 spectacles pendant l'année, dont 30 ce sont des premières des créations, 5-6 produits par nous-mêmes avec l'ensemble du national, avec des comédiens invités, des dramaturges invités, des metteurs en scène invités. Moi-même, je fais mon travail au national maintenant, et 25 compagnies qu'on invite à coproduire, on fait l'accueil. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est de voyager dans le pays qui peut déjà présenter travail, dans des villes comme Porto, bien évident, mais Guimarães, Viseu, Guarda, Coimbra, des villes un peu partout qui présentent déjà, qui font la programmation, des théâtres qui peuvent acheter des spectacles et les présenter. Mais aussi, on a créé ce projet Red Eunice. Eunice, c'est le nom d'un des grandes comédiennes portugaises qui a vécu une grosse partie de sa carrière au Théâtre National. Elle est vivante, elle est là, elle nous visite chaque fois, chaque première, elle est là. Elle a baptisé ce réseau. Et c'est un réseau qu'on crée juste le Théâtre National avec des communautés où il y a des théâtres qui sont presque vides, qui n'ont pas d'argent. Alors, ce qu'on fait, c'est on travaille pendant toute la saison avec ces communautés, ces théâtres de ville, petits théâtres de petites villes, et on visite 3 fois par saison. Et chaque théâtre peut rester dans le réseau 3 ans. Alors, on les visite 9 fois et on le paye. On prend l'argent des impôts des Portugais pour faire ça. Mais aux autres villes qui ont d'argent pour nous acheter, on est une compagnie. Ils nous achètent. Et là, on met l'argent des Portugais, des impôts, où on peut faire vraiment service public qui change, qui développe quelque chose, où on sent qu'on fait la différence, où on sent que si ce n'était pas nous, il n'y avait aucune personne qui pouvait les visiter, parce qu'il n'y a pas d'autres compagnies au Portugal ou d'autres institutions au Portugal qui peuvent le faire comme ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais compagnie, je faisais des petits spectacles. Et ces villes-là, même pour ces petits spectacles, comme By Heart, ils n'ont pas d'argent. Alors, avec le national, on peut le faire. On peut même y amener des spectacles avec 15 comédiens, voilà, s'ils ont l'espace. Et on les visite 9 fois. Et après, ils doivent continuer à le faire ou pas le faire. Si ça marche après 3 ans et 9 visites, ça marche. Fantastique. Maintenant, ils ont peut-être dans la communauté la demande. Les gens qui disent aux politiciens il faut mettre l'argent dans le théâtre, ou si ça n'a pas marché, voilà, ça va, on continue. Mais quand même, on a offert pendant 3 ans un travail régulier de qualité de théâtre à cette communauté. Et ça, c'est Red Eunice. Et voilà, et ça nous donne expression encore limitée. Ça devait être pas 7 théâtres, mais ça devait être 20 théâtres, mais on n'a pas l'argent. Mais 7 théâtres déjà, c'est pas mal. Et ça donne expression à une volonté d'être auprès des Portugais qui payent aussi le Théâtre National et qui ne peuvent pas voyager de leur ville pour venir au grand bâtiment national. Alors on l'emporte vers eux. Et ça, c'est la dimension nationale. Et après, la dimension internationale, qui est où le Théâtre national de Lisbonne était complètement absent du circuit international, notamment de l'européen. Et on essaie maintenant de plus en plus de présenter des spectacles du national dans d'autres pays. Et ça se passe très bien. C'est déjà depuis 2015. Ça signifie un tiers des recettes du national. Alors, un tiers de notre public est hors du Portugal. Pas mal. Déjà, après un an. On espère qu'à l'avenir, on ne déménage pas. Le Théâtre national de Lisbonne à Bordeaux.
Et en ce moment, il se passe quelque chose d'étrange au Théâtre national. Je parle de l'occupation mignotte. Est-ce que vous pourriez nous en parler?
Occupation mignotte, c'est l'inverse de ça que je venais d'expliquer. Oui. On a invité une compagnie, Comédias do Minho, c'est une compagnie qui a 12 ans maintenant, qui fait un travail de création contemporaine dans 5 villes du nord-ouest portugais, Minho, la région. Sont 5 villes, c'est incroyable comme projet. 5 villes, il y a 12 ans, 5 maires voisins, alors avec tous les problèmes des voisins, 5 maires de petites mairies, se sont dit, on va financer tous ensemble une compagnie, mais pas une compagnie de création contemporaine, vraiment à fond, mais qui travaille dans le terrain ici. Et ils ont invité des gens vraiment incroyables à penser cette compagnie, et c'est un des projets artistiquement le plus intéressant du Portugal, mais ils sont là. Ils font un travail, ils présentent aussi dans d'autres villes, mais ils font tous son travail là. Ils présentent des centaines de spectacles par année, c'est incroyable le travail qu'ils font. Ils ont des sponsors du terroir. L'argent qu'ils ont de sponsors, c'est comme 10 fois l'argent que j'ai des sponsors à Lisbonne pour mon théâtre. Alors, ils ont tout le marché de cette région autour d'eux en disant « Oui, c'est important de vous soutenir. » Mais avec conviction, hein. C'est pas côté « Ils étaient convaincus par un politicien. » Non, c'est militant des gens, des entreprises. C'est incroyable, le travail là. Politique aussi. Et les spectacles sont incroyables, très très bien, et enfants jeunesse, ils travaillent beaucoup. Alors on a dit, il faut que aussi les régions nous occupent à nous, dans le national. Alors on leur a demandé d'imaginer un mois d'occupation mignotte, occupation de la région de Minho au national. Alors ils ont créé un nouveau spectacle, ils présentent plusieurs spectacles enfants jeunesse, petites formes, des lectures. Aujourd'hui ils font un masterclass de jour entier pour expliquer à des producteurs, à des metteurs en scène de Lisbonne comment ils travaillent en haut pour qu'ils peuvent reproduire, apprendre avec. Et ça, c'est très beau avec cette occupation, c'est qu'on pourrait dire un peu, nous sommes le Théâtre national, on demande à ces gens-là de petites villes, venez, voyez comme c'est bien ici. Mais c'est tout au contraire. Mm-hmm. En fait, on les a invités pour apprendre avec. Parce qu'ils font aussi un répertoire très différent. Ils font un répertoire parfois de nouvelles écritures très risquées, mais aussi des mises en scène contemporaines, des textes qui personne plus travaille, comme des textes de tradition orale des petits villages, qu'ils transforment dans des spectacles. Par exemple, la nouvelle création qu'ils font, c'est un combat, c'est Charlemagne, en fait, c'est les 12 parts de France. C'est un grand texte de la tradition dramaturgique portugaise, mais transcrit comme ça, il y a plusieurs versions, qui se jouait dans les villages. Alors, c'est les 12 parts du règne de France avec Charlemagne et les 12 qui combattent les musulmans qui étaient au sud du Portugal. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils jouent les chrétiens, l'ensemble de Comédias do Minho, et l'ensemble du national joue les morts. Comment ça se dit en français?
Morts. Les morts.
Les morts. Mmh. Voilà, alors les chrétiens contre les morts. Et ce sont les comédiens d'en haut et les comédiens d'en bas. Mais on le joue au national pendant 3 semaines. Mais après, pendant 5 semaines, ils les jouent dans les petits villages, parfois dans l'église. Alors, on les joue dans la grande salle du national et après, on apporte le même spectacle dans les petits villages. Là-haut et voilà, et de dire que en fait c'est un exercice de questionnement aussi de qu'est-ce que c'est la contemporanéité dans le contexte du rural. Qu'est-ce que c'est le populaire dans le contexte urbain? Qu'est-ce que c'est la création contemporaine connectée avec la géographie? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a des choses qui sont notamment différentes entre ces comédiens-là, entre ces metteurs en scène-là et les metteurs en scène et comédiens, par exemple, du Théâtre National à Lisbonne? À quel point ils se connectent, à quel point ils sont différents? Alors, il y a un vrai questionnement aussi d'esthétique là-dedans. Et en même temps, c'est un travail artistiquement qui nous intéresse beaucoup. En tant qu'artiste, il faut garder la résistance d'être heureux, ma liberté personnelle. Si on ne va pas devenir riche, parce qu'on ne sera pas riche, comme artiste, au moins, laisse-nous rester libres. Allez, merci.